Entre juin 2016 et juillet 2017, à Rennes, dans le quartier de la Poterie, une ancienne maison de retraite laissée vide a été occupée par 170 personnes migrantes et sans-abri, soutenues par plusieurs associations. Initialement squat, le lieu a été conventionné sous un régime inédit à partir de décembre 2016, reprenant alors le nom des Jardins de la Poterie. Pousser les portes de ce lieu, c'est découvrir des expériences habitantes dans toute leur complexité. C'est saisir des ressentis, comprendre la vie dans un lieu, la vie d'un lieu dans une ville, la façon dont on prend soin de soi et des autres, dont on noue des liens sociaux et dont on mène son existence au sein d'un espace de vie partagé. De ces morceaux de vie naît le projet Trajectoire. Trajectoire, c'est un travail artistique, photographique, mais aussi une recherche scientifique, une action associative en partenariat avec l'Université de Rennes 2. Le projet Trajectoire aborde l'immigration, le logement et plus précisément l'expérience habitante de personnes migrantes en situation de précarité administrative. Anne-Cécile Oyer, chargée de recherche au CNRS, a vécu au contact de ces migrants pendant l'ensemble du projet. Elle nous raconte en quoi consistait son travail, ainsi que l'expérience qu'a été le projet Trajectoire.
Les questions migratoires aujourd'hui, elles sont très médiatisées et parfois un petit peu rapidement, avec des catégories pour désigner les migrants, pour désigner les lieux de vie des migrants, pour désigner leur statut, qui sont un petit peu utilisées rapidement et je dirais à la hache. Et donc nous, notre travail, c'est de déconstruire un petit peu toutes ces catégories du point de vue de la recherche, de voir aussi ce que d'autres spécialistes des migrations et des migrants ont à dire, notamment les associations, les militants, les bénévoles et les artistes comme le photographe François Lepage par exemple.
Que ce soir, tout à l'heure, nous assisterons à une rencontre débat avec les différents acteurs du projet qui sont donc nombreux, l'ANR Mixant ainsi que le photographe François Lepage, la fondation Abbé Pierre, mais aussi l'association C'est un toit, c'est un droit, et d'anciens habitants des Jardins de la Poterie. J'imagine au cours de ce forum que vous allez exposer des faits, mais aussi l'objectif reste malgré tout de laisser la parole à chacun et avant tout de débattre.
Oui, exactement. Donc on va exposer un petit peu nos démarches. On va exposer ce qu'on a vu et la façon dont on l'analyse, et on va donner la parole en effet à un maximum de personnes.
Anne-Cécile Oyer, vous faites partie de l'ANR Mixant, l'ANR étant l'Agence Nationale de la Recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'est justement Mixant ?
Alors il y a plusieurs écoles, on dit Mixant ou Mixane. Donc c'est les acronymes pour Migration et Santé. Donc c'est un projet de recherche en fait qui est financé, donc, comme vous l'avez dit, par l'Agence Nationale de la Recherche. Voilà, donc nous on travaille sur les trajectoires de soins des migrants en France, notamment les migrants qui sont récemment arrivés sur le territoire pour travailler un petit peu aussi sur la question de crise migratoire et la façon dont elle se répercute sur la santé des personnes et sur leur accès aux soins. Mais quand même, on ne travaille pas que sur la santé des migrants. Il faut dire aussi que tous les migrants ne sont pas malades, mais qu'ils ont certaines particularités dans leur contexte de vie et du point de vue de leur statut et leur droit au séjour qui leur donnent différents accès à la santé. Donc c'est ça qu'on étudie. Et on étudie aussi le contexte de vie actuel des migrants, sachant que ces contextes de vie peuvent avoir des répercussions sur la santé, sans que les personnes ne soient malades au départ. Donc c'est pour ça qu'on explore aussi la question du logement et des conditions de vie dans les espaces résidentiels des migrants et voir en quoi ça peut avoir un impact favorable ou défavorable sur leur santé. Donc en travaillant cet aspect-là, une entrée par les conditions de vie et les contextes de vie au quotidien, qu'on en est venu à s'intéresser à ce qui s'était passé à la Poterie l'année dernière.
Vous avez réalisé un carnet, si je ne me trompe pas, qui réfère les avancées du programme de recherche. Quels en sont les axes principaux ?
Alors les axes principaux du programme de recherche, donc le premier axe en effet, c'est de bien cerner, bien comprendre l'accès aux soins aujourd'hui des migrants en France, qu'on a cette entrée par les expériences des migrants, par les expériences des populations migrantes. On travaille sur trois angles particuliers. Donc, comme je l'ai déjà dit, la question des contextes de vie et de la question du logement et de la précarité résidentielle, la façon dont ça se répercute sur la santé et l'accès aux soins. On travaille aussi également sur les migrants qui sont atteints de maladies chroniques pour comprendre en quoi les trajectoires migratoires viennent à être modifiées par les trajectoires de soins, notamment donc dans le cadre de la maladie chronique. En maladie chronique, on travaille sur le VIH et les hépatites. Et le troisième point d'entrée sur les situations des migrants, alors c'est une entrée pas nécessairement sanitaire, mais une entrée aussi sociale, qui est celle de la grossesse. Et on travaille sur les conditions d'accès aux soins périnataux pour les femmes enceintes migrantes. Ça, c'est une première entrée, donc par ces trois expériences de la santé différentes du point de vue des migrants. La deuxième entrée, c'est de travailler sur les professionnels de la santé et du social et du médico-social qui se mobilisent à destination des migrants. Donc on regarde tout le travail soignant qui est fait par exemple dans les services maladies infectieuses des CHU, dans les services des pathologies des CHU. On travaille sur tout le travail soignant qui est fait dans les maternités, les services de gynéco-obstétrique, pour bien comprendre comment ces professionnels ils sont conduits à se mobiliser différemment quand ils ont des patients migrants, et notamment parce que leurs titres de séjour ne sont pas acquis, leurs conditions vis-à-vis du logement vont impacter largement leur parcours de soins, etc. Donc on essaye de voir en quoi et comment les professionnels de la santé ou du social agissent en fait auprès des migrants. Et notre troisième axe d'entrée, c'est de voir quels sont les dispositifs qui sont mis en place à destination des migrants, ou quels sont les dispositifs que l'on dit de droit commun, comment est-ce qu'ils fonctionnent quand ils accueillent une majorité de personnes migrantes. Comment est-ce que ça se joue pour eux et qu'est-ce qu'ils vont faire ? La chose que je n'ai pas dite sur ces trois entrées, donc une entrée par les individus, une entrée par les professionnels et une entrée par les dispositifs, on va dire, c'est qu'on travaille sur quatre terrains différents, Rennes, Nantes, Poitiers et Strasbourg. Donc le travail qui est présenté ici aujourd'hui, c'est une petite partie de l'axe 1 de ce qui s'est joué à Rennes. Par ailleurs, d'autres travaux qui sont en cours dans les autres villes actuellement.
Comme on l'a compris, vous avez choisi de focaliser vos recherches sur l'axe des soins des primo-arrivants. Pourquoi ce choix et quelles en sont les conclusions à l'heure actuelle ?
La santé, c'est un des secteurs de la vie publique, du domaine public, du secteur d'action politique que l'on étudie en sciences sociales. Ça aurait pu être l'éducation, ça aurait pu être d'autres choses. Donc nous, ce sont des spécialistes de la santé qui se sont mobilisés majoritairement dans ce projet-là. Et puis nous, ce qu'on voulait voir et ce que l'on voit actuellement, il y a deux choses. Il y a la santé des migrants et il y a l'accès aux soins des migrants. Sur l'état de santé des migrants, nous, on n'aura pas de chiffres quantitatifs à donner. Il y a d'autres équipes qui travaillent dessus, notamment des équipes de l'INSERM ou de l'IRDES, mais on se base sur leurs travaux, sur leurs constats, pour nous ensuite mener des recherches qualitatives sur les processus d'accès aux soins. Donc on essaye de voir comment les migrants ont accès aux soins actuellement. Donc ce que l'on constate, mais on n'est pas les seuls à le faire, on constate largement en France, c'est que depuis plusieurs années, ce sont les politiques migratoires surtout qui impactent les conditions d'accès aux soins, parce que maintenant ce sont les titres de séjour qui donnent le droit à certains soins ou pas à d'autres. Ce sont les titres de séjour qui conditionnent le positionnement des migrants dans tel ou tel type, tel régime d'assurance maladie. Donc ça va avoir un impact sur le panier de soins auxquels ils vont pouvoir avoir accès. Ce que l'on voit aussi beaucoup sur le terrain, c'est que les contextes migratoires et notamment toutes les représentations négatives qui peuvent avoir lieu, qui se jouent autour des populations migrantes, ont un impact sur leur prise en charge médicale. Donc ça encore, nos travaux le montrent un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres travaux qui le montrent en France. Les migrants peuvent être traités différemment dans les services de santé publique. C'est-à-dire que même s'ils ont des droits ouverts, même s'ils ont droit à la santé, ils ne sont pas toujours reçus comme le sont les personnes de droit commun. Donc il y a tous ces processus-là à aller voir, à aller décortiquer et à aller explorer pour savoir où ça se joue. Si ça se joue du point de vue des migrants qui renonceraient aux soins ou qui se comporteraient différemment auprès des professionnels de santé, si ce sont les professionnels de santé qui répercutent des choses sur la façon dont ils prennent en charge les migrants. Donc on essaye d'aller explorer tout cela. Et la troisième chose que l'on repère aussi sur l'accès aux soins, à travers cette exposition, on le voit bien, c'est bien les conditions de vie en fait, qui ont un impact sur la santé des personnes. La chose qui nous a frappé, nous, sur le terrain, c'est par exemple que les personnes, à partir du moment où elles sont installées, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est souvent éphémère, dans des squats, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'elles peuvent entamer des démarches de santé. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est quand même frappé de représentations négatives, les squats, parce qu'on imagine que ce sont des lieux extrêmement délétères pour la santé, mais en même temps, le fait de fixer les personnes dans un lieu, même vont faire qu'elles vont pouvoir se mobiliser pour leur santé et pour leur accès aux soins. Ça va faire aussi que les équipes médicales, en fait, qui vont savoir où aller chercher leur public précaire, qui ne seront plus à la rue, mais bien pris en charge dans un lieu physique et fixe, même si c'est pour une courte durée. Donc ça, on le voit vraiment, vraiment largement, c'est que les démarches de santé sont largement entravées, l'accès aux soins est largement entravé par les conditions de vie et notamment par la précarité résidentielle.
Comme on l'a dit précédemment, vous êtes de nombreux acteurs à prendre part à ce projet qui s'appelle donc Trajectoire, mais qui est à l'initiative, si je puis dire ?
C'est tout le monde en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que on travaillait tous l'année dernière autour du squat. Donc quand je dis travailler, nous on faisait un travail de recherche sur le terrain. François Lepage avait posé son studio photo à plusieurs moments dans l'année. Donc nous, on observait ce que faisait François Lepage comme ce que faisaient beaucoup d'autres personnes pour animer le lieu, investir ce lieu de vie. Et puis le 17 juillet, quand les jardins de la poterie ont été évacués, parce que la convention s'arrêtait le 17 juillet, tout le monde est parti. Le 17 juillet, nous sommes tous retrouvés avec énormément de matériaux et énormément de morceaux de vie. Surtout, en fait, avec beaucoup d'humanité, en fait, qui nous restait comme ça dans les mains. Et puis, on s'est tout de suite rendu compte que c'était des éléments de mémoire, en fait, de tout ce qui s'était passé dans ce lieu un petit peu inédit pendant un an. Et c'est là, donc, avec la Fondation Abbé Pierre et l'association Un Toit, c'est un droit, on s'est dit, il faut absolument qu'on rende visible tout cela. Donc, la première initiative, quelque part, elle est très collective. On a tous convergé, on a tous mis en commun tout ce qu'on avait à montrer en termes de matériaux et à dire en termes de plaidoyer pour les associations ou d'analyse en termes de recherche en sciences sociales pour nous. Et ensuite la première initiative ça a été d'aller chercher de l'argent pour mettre en place tout cela et la première occasion ça a été l'université de Rennes 2 donc qui à travers un dispositif qui s'appelle les actions spécifiques en fait nous a aidé à valoriser tous ces travaux de recherche et tous ces travaux de photographie ensemble et puis ensuite tout cela continue parce que l'exposition a été conçue pour être itinérante donc va être aussi accueilli dans d'autres lieux, alors d'autres lieux de formation, notamment à Scoria, l'école de formation des travailleurs sociaux. Ça va être accueilli aussi lors des journées de formation des jeunes lycéens du conseil régional, élus au conseil régional. C'est une multitude d'initiatives et chacun avec nos réseaux, en fait, on arrive à faire venir l'exposition ici et là en Bretagne. Ouais.
Je reviens sur ce que vous disiez précédemment. Vous avez vécu pendant un an vraiment au contact de ces migrants ?
On n'a pas vécu au squat, mais on était très présents au squat avec des niveaux d'implication différents. Donc, alors, il y a plusieurs façons d'avoir vécu au squat. Il y a d'abord les étudiants, en fait, des étudiants de géographie et des étudiants de Sciences Po l'année dernière qui se sont impliqués dans un travail de recherche. Et quand je dis impliqués, c'est vraiment au sens fort, avec une implication citoyenne qui a pu aussi poser la question de l'engagement des chercheurs sur leur terrain, notamment sur les terrains sensibles comme cela. Et ces étudiants, donc, en sont venus à s'impliquer largement. Alors, ne pas y vivre parce que les places sont quand même prises, en fait, pour les migrants, mais si impliqué en termes d'animation, en termes de propositions pour des actions à destination des migrants. Pour ma part, j'ai participé aussi au relevé d'informations en se rendant régulièrement sur le lieu des Jardins de la Poterie, en allant faire énormément d'observations, notamment sur tous les temps de vie collectifs et sur tous les moments où les associations se mettaient en synergie pour avancer vers la prise en charge de ces migrants et avancer aussi vers la sortie qui était prévue de longue date pour faire en sorte que cette prise en charge en fait, des personnes, des habitants soit effective au-delà du 17 juillet. Donc ça, ce sont des moments de vie qu'on est allé capter au long cours. Et puis nous est arrivé aussi de voir des migrants dehors des Jardins de la Poterie et puis à un moment, voilà, c'est assez commun en fait en sciences sociales, c'est terrain au plus près des personnes, en fait, nous amène parfois à lier des liens d'affinité voilà, qui vont au-delà, ce qui questionne largement en fait notre rôle en tant que chercheur et notre rôle en tant que citoyen en fait, qui habite le même espace et la même ville que ces personnes-là. Ouais.
Et dans ces moments de vie, ces observations, est-ce qu'il y a des éléments, des choses qui vous ont particulièrement choqué ?
Je ne pense pas qu'il y ait de choc particulier. En fait, on était en permanence ballotté entre des espoirs et des désespoirs, entre les deux. Je ne pourrais pas parler en termes de choc, mais ce qui nous a arrêtés sur le plan émotionnel, par exemple, c'est tous les récits de vie qu'on a pu récolter tout au long de cette année. Donc, on faisait des entretiens avec les migrants et les migrantes pour bien connaître leur parcours migratoire et puis bien placer cet épisode d'occupation ou ce lieu de vie dans les Jardins de la Poterie pour les remettre à l'échelle de leur vie à eux. Donc voilà, les migrations actuellement, ces dernières années, sont des migrations très 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 dures, très éprouvantes pour les personnes. Les trajectoires migratoires sont extrêmement longues. Les personnes ont pu avoir des parcours tortueux, compliqués, dont ils nous ont fait état. Donc on a été vraiment en première ligne pour recueillir ces récits-là, ces informations-là. On a pu être aussi un peu arrêté émotionnellement par les récits de traitement des migrants, alors que ce soit au guichet de l'immigration, avec beaucoup de récits qui relèvent de la violence institutionnelle quand même. Voilà, dont on fait état aussi dans la recherche et dans nos travaux. Et puis à l'inverse, on a quand même vu des issues positives dans toutes ces trajectoires migratoires, des issues positives dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure pour la santé, des personnes qui étaient dans des conditions très très compliquées au regard de leur santé ou de leur accès aux soins, se sont retrouvées prises en charge et ont pu ouvrir des dossiers pour faire valoir des titres de séjour un peu plus pérennes au titre de leurs soins, par exemple. Des personnes aussi qui ont pu voir leur dossier administratif être débloqué parce que ce temps de résidence un peu prolongé a permis que l'on se penche plus en détail sur les circuits, sur les entraves en fait qu'on a dans la mise en œuvre des droits. On est globalement ballotté dans tous ces remous et dans tous ces récits en fait qui nous sont faits. Voilà, j'essaie de pas parler de choc non plus parce que il faut qu'on rende compte de quelque chose qui est en effet un peu dur, mais que l'on doit rendre discible au-delà du choc. Et je pense que cette exposition, elle y contribue largement parce que les photos, notamment, enfin le travail photographique de François, montre bien en fait toute cette humanité qui est là, qui reste là malgré toutes les difficultés au quotidien.
Donc Cécile, vous faites partie du programme Mixant, Migration et Santé. Font partie aussi de ce programme l'association Un Toit, c'est un droit. Je crois savoir qu'ils ont mis en place des actions socio-culturelles pour égayer un peu le quotidien de ces personnes.
Ce que j'en retiens, c'est l'effort important et l'accent important qui a été mis sur le fait d'organiser des choses à l'intérieur du lieu de vie et d'organiser des choses à l'extérieur du lieu de vie aussi, pour ne pas confiner les migrants à une vie sociale qui serait cantonnée aux limites du mur en fait du lieu qu'ils habitaient. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé énormément de choses pour les enfants, pour les femmes, pour les familles, pour les hommes, donc à destination de plein de types de publics qui habitaient au Jardin de la Poterie. Ils ont organisé des concerts à l'intérieur des Jardins de la Poterie pour faire venir des Rennais et des Rennaises participer en fait, venir écouter des concerts, venir voir des petits spectacles, etc. Et ils ont organisé aussi de l'investissement de lieux à l'extérieur des Jardins de la Poterie, donc notamment la maison de quartier, mais aussi tout ce qui pouvait se faire à la maison des associations, tous les concerts gratuits, toutes les animations gratuites qui peuvent être faites au centre-ville de Rennes, par exemple. En fait, les associations sont beaucoup mobilisées pour accompagner les migrants dans ces lieux-là, dans lesquels ils n'iraient pas non plus forcément facilement. Donc ce lien, cet investissement du lieu de vie et ce décloisonnement en même temps, donc cet effort constant pour que le lieu soit intégré à la ville et que la ville puisse investir aussi le lieu, donne une image, enfin, pour moi, très positive de ce que peut être le vivre ensemble aujourd'hui, avec cette notion d'inclusion globale des personnes, quel que soit leur statut.
Peut-être un peu plus concrètement, je crois savoir qu'il y a eu aussi un soutien financier de la part de l'association Abbé Pierre.
Le soutien financier, il est venu de plusieurs parts. Alors, je parlerai de l'action de la Fondation Abbé Pierre sur le plan financier. Donc la Fondation Abbé Pierre, en fait, s'est très tôt manifestée autour des Jardins de la Poterie parce qu'elle voit un moment et un lieu favorable à l'accueil des migrants, un peu inédit, mais qui, selon la Fondation Abbé Pierre, méritait un investissement financier. La Fondation Abbé Pierre, en fait, a pris sur ses fonds Bretagne, enfin les fonds régionaux en fait de la Bretagne, pour payer en fait une partie des factures qui allaient être dues en fait par les habitants, notamment pour payer ce qu'on appelle les fluides, hein, l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc la Fondation Abbé Pierre s'est impliquée comme ça financièrement dans cette initiative. Et puis elle a poursuivi son investissement financier en finançant aussi cette exposition ici à l'université, dans le but de rendre visible à plus long terme cette initiative un petit peu originale qui s'est jouée sur le territoire rennais. Et comme dit Stéphane Martin, en tout cas, qui s'occupe de la Fondation Abbé Pierre à l'échelle de la Bretagne, pour que cette initiative puisse être dupliquée et répliquée ailleurs.
Et donc dans quelques instants, on pourra participer à la rencontre débat de trajectoire. Quel en sera l'objectif ?
La rencontre débat, l'objectif, c'est de bien présenter ce projet pluripartenarial. C'est de bien montrer que la question migratoire Elle concerne tout le monde, elle concerne les associations, elle concerne les chercheurs, elle concerne les artistes, elle concerne les étudiants, elle concerne tout le monde. Il y a des migrants qui seront là aussi, qui ont habité au Jardin de la Poterie, qui sont là et qui sont eux aussi, à leur titre, concernés par le logement des migrants en tant qu'acteurs. L'objectif, c'est de bien parler, chacun de notre point de vue, sur ce qu'on a à dire ensemble. Et puis, il y a un objectif, bien sûr, d'échanger, de débat, où il y aura un temps assez long, enfin, qu'on essaiera le plus long possible, qui soit consacré à l'échange avec le public et à tout ce que le public a posé comme question sur non seulement sur notre exposition, mais aussi sur la question des migrations, notamment sur le territoire rennais actuellement.
Suite à notre entretien avec Anne-Cécile Oyer, nous avons, à la rencontre de ce débat où de nombreuses personnes migrantes ainsi qu'acteurs du projet étaient présents, fait connaissance avec Joël, secrétaire de l'association Un toit, c'est un droit, qui témoigne de son combat quotidien.
J'ai fait mon boulot comme les autres copains, quoi. Donc l'association a accompagné les migrants, les 160 migrants qui étaient à la rue et qui ont investi donc l'ancienne maison de retraite des Jardins de la Poterie en juin 2016. On est en contact avec eux tout le temps, de toute façon. Il y a différentes associations. Il y a beaucoup d'associations sur Rennes qui travaillent avec les migrants. Il y a un tissu très, très, très fort et très solidaire. Enfin, on s'entend tous très bien, mais on n'a pas tous exactement les mêmes spécificités. Donc, il y a la CIMAD qui s'occupe des dossiers, le collectif sans papier qui suit aussi les dossiers des gens, le MRAP qui en suit beaucoup, beaucoup. Et nous, notre spécificité, c'est le logement avec une autre association qui s'appelle Bienvenue. Alors, sauf que l'association Bienvenue, elle est spécialisée dans l'accueil à domicile dans des familles françaises. Alors que nous, on est plutôt dans l'ouverture de lieux collectifs. Alors, on a ouvert beaucoup de squats dans le passé. Et puis là, maintenant, on est plus dans des systèmes de convention. Donc, une fois que le squat est ouvert et que la justice nous donne raison, puisque l'État ne respecte pas la loi, ensuite, on se tourne vers les propriétaires pour négocier des conventions. Donc, c'est des baux à usage précaire. Donc, on signe, il y a un état des lieux de rentrée, un état des lieux de sortie. Nous, on paye l'assurance. Et selon les endroits, on paye aussi l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage. Donc j'en profite pour dire qu'on a une cagnotte en ligne pour récupérer de l'argent, parce que ça nous coûte très, très, très cher. On a 18 maisons sous convention actuellement. Alors toutes n'ont pas le même régime, il y en a pour lesquelles c'est complètement gratuit. On signe une convention, on est juste médiateur vis-à-vis du propriétaire, que ce soit une collectivité ou un privé. Mais il y a beaucoup de conventions pour lesquelles on paye tout. Donc là, j'ai fait le calcul. Hier, je suis allée à l'AIE et depuis le mois de novembre, 1900 euros. Bim. Donc on a vraiment besoin d'argent parce que les gens, bien sûr, ils ne peuvent pas payer. Ils ont des tout petits revenus, quoi. Un célibataire en aide d'urgence, il a 60 euros par mois. Une famille, elle touche l'aide sociale à l'enfance, c'est 150 euros par mois par enfant. Bon, les demandeurs d'asile, normalement, on ne devrait pas en avoir puisqu'ils devraient être logés en CADA. On en a quand même, c'est 12,20 euros par jour. Donc ça fait vraiment des tout petits revenus et tous ces gens-là n'ont pas le droit de travailler.
Et justement, en termes de coûts, il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellée pendant cette rencontre. Vous avez parlé du coût de la vie dans le squat qui s'élève à 1,38 €. Est-ce que vous pourriez développer ?
En fait, on a compté toutes les dépenses en eau, en électricité, en chauffage, en assurance. Et on a tout divisé par le nombre d'habitants et le prix de revient par personne et par jour, c'est 1,38 €. En l'occurrence, pour la mairie de Rennes, puisque c'est la mairie de Rennes qui a financé quand même le plus gros, avec Rennes Métropole aussi, et la Fondation Abbé Pierre qui avait abondé à hauteur de 8000 euros pour le chauffage. Et nous, on complétait. C'est pour ça que, enfin, des lieux vides, il y en a plein. Là, cette maison de retraite de la Poterie, elle était vide depuis 2 ans, chauffée. Bon, elle n'était plus chauffée quand on est arrivé, comme par hasard. Mais précédemment, elle était chauffée. Donc, il y a plein de lieux vides en parfait état et des personnes à la rue. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre des gens sans toit dans des toits sans personne. Voilà. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas viable économiquement, c'est faux. Donc si ça n'est pas fait, ce n'est pas pour des raisons économiques, contrairement à ce que disent tous les gouvernements successifs, c'est pour des raisons de xénophobie, d'État. Il y a un moment, ou alors qu'on m'explique, Il y a des lieux vides. En plus, les propriétaires sont obligés de payer des sociétés de surveillance pour que ça ne soit pas dégradé. Nous, quand on est dans un lieu, on le surveille, on le rend en parfait état. Les propriétaires ne payent pas de vigile. C'est bon, peut-être ça fait quelques postes en moins, mais c'est à la mode en ce moment, les vigiles partout. Donc, ils doivent trouver du taf. Enfin, rien du tout. Alors, comme j'ai dit, sachant que, bien sûr, ne sont pas pris en compte là-dedans les salaires des travailleurs sociaux. Voilà. Et c'est quand même un point fort. Nous, on n'est pas théoriquement compétents pour gérer ça. Il faudrait des professionnels. Il y en a qui sont formés. À Rennes, il y a un vivier à Scoria. Là, ils ne vont pas forcément tous trouver du boulot en sortant de leurs études, alors qu'il y a des besoins. Voilà. Évidemment, il faut les payer. Bah, je pense que là, on touche directement une question politique franco-française. C'est-à-dire que un migrant qui travaille peut se loger, paye des impôts et ne se voit pas. Votre voisin, il peut être migrant, vous ne le savez pas, il travaille, il va chercher ses gosses à l'école, il paye ses impôts, il va au magasin, voilà. Donc, il faut que les migrants soient visibles. Et il faut qu'ils soient visibles de la manière la plus misérable possible, parce qu'on a toujours peur de tomber plus bas que ce qu'on est. Et les migrants, c'est un miroir, c'est-à-dire, mon Dieu, quelle horreur, ils vivent dans des taudis, ils crèvent la faim, ils ont froid... Ça fait peur. Donc, ça fait peur. Et en plus, ça permet de dire, regardez comme ils sont nombreux. Hein, alors, moi, j'habite dans un petit coin de campagne complètement reculé. Il n'y a pas un seul migrant. Dans les trois quarts de la France, il n'y a pas un seul migrant. Mais c'est vrai que dans les villes, évidemment, il y a une concentration. Donc, ça permet de les montrer du doigt. Bon, il faut des boucs émissaires. Quand on n'est pas foutu capable de régler les questions économiques et sociales dans un pays, un gouvernement ne peut pas avouer qu'il n'a pas fait son boulot. Donc, il faut bien que ça soit de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, monsieur, si vous n'avez pas de travail, c'est à cause du migrant qui est à côté que vous croisez dans la rue, même s'il n'a pas le droit de travailler. Vous entendez les chansons? Je pense qu'il faut aller les enregistrer. C'est trop beau.
Merci à vous. I don't know.